c'est l'heure de la chronique astronomie par Michel Favré.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
La classe générique, on en parlait justement avec Michel. C'est quoi la musique, vous pouvez me le dire?
Je ne sais plus.
Non,
c'est la musique de Bowie, je crois.
De Bowie. Donc, il y a une histoire quand même. Hein. C'est ce que vous étiez en train
qu'a
de dire.
Qui a un rapport avec l'espace.
Qui a un rapport avec l'espace. En tout cas, il est très sympa. Bon, donc, bonjour à vous, Michel Favré. J'espère que vous allez bien.
Oui, bonjour Sandrine. Pour alors, le moment, ça va.
Pour le moment, tout va bien. Alors, on en profite. Allez, on est sur la chronique astro numéro 68. Ça veut dire que ça fait quand même plusieurs années. Parce que c'est à savoir une fois par mois que vous venez dans les locaux d'eau de radio pour présenter cette chronique. Ça fait combien d'années maintenant, Michel?
Je ne sais plus. Plus de 5 ans, je pense.
Plus de 5 ans. En tout cas, on vous en remercie comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va commencer, je disais au sommaire, par parler de 3 prix Nobel pour les trous noirs.
Oui, alors effectivement, c'est le 6 octobre dernier que l'Académie royale des sciences de Suède annonçait le prix Nobel de physique 2020. Et ce sont 3 physiciens et astrophysiciens qui sont récompensés pour leurs travaux sur les trous noirs. Il y a l'anglais Roger Penrose, qui est aujourd'hui âgé de 89 ans, qui est théoricien de la relativité générale et qui a démontré en 1965 que l'existence possible de ces objets singuliers découlait directement de cette théorie. L'astrophysicien allemand Reinhard Genzel, de 68 ans, et Andrea Mia Gaze, je pense que ça se prononce comme ça, astronome américaine de 55 ans, qui ont tous deux contribué à mettre en évidence l'existence d'un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Je rappelle à nos auditeurs que les trous noirs, sujet abordé à de multiples reprises dans nos chroniques, sont des objets dont la masse est tellement concentrée que leur champ gravitationnel intense dans leur environnement proche interdit même à la lumière de s'en échapper. D'où leur nom, trou, car si on s'en approche trop, on tombe dans leur champ gravitationnel sans pouvoir s'en échapper, et noir, car comme ils ne peuvent émettre aucune lumière, ils sont intrinsèquement noirs, même si leur environnement peut être très lumineux. Par exemple, si du gaz tombe dans le trou noir, en étant tellement accéléré, donc échauffé, qu'il produit beaucoup de lumière. Si notre connaissance des étoiles et de leur évolution à la fin de leur vie permet de prévoir l'existence de trous noirs produits lors de l'explosion finale de très grosses étoiles, ceux-ci sont d'une taille bien plus modeste, de quelques masses solaires seulement, si je peux dire. Mais pour le moment, on n'explique pas bien le processus de création des trous noirs supermassifs de plusieurs millions et même dans certains cas milliards de masses solaires qui semblent exister au cœur de toutes les grandes galaxies. Je rappellerai aussi que les trous noirs ont fait l'objet d'observations spectaculaires ces dernières années, notamment le 14 septembre 2015 avec la première détection d'une onde gravitationnelle dont l'origine était la fusion, alors dans le jargon astronomique on dit coalescence, de 2 trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun, détail assez inhabituel pour nos connaissances actuelles. Et le 10 avril 2019, donc il y a guère plus d'un an, quand a été révélée la première image d'un trou noir, le trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87, image obtenue en combinant des observations de plusieurs radiotélescopes à l'échelle de la Terre entière, projet baptisé Event Horizon Telescope, en référence à l'horizon des événements, distance à laquelle plus rien ne peut s'échapper à l'attraction d'un trou noir et qui dépend de la masse de celui-ci. Cette image est un peu paradoxale, puisqu'un trou noir est invisible par définition, mais elle montre en fait le gaz chaud en train de tomber dans le trou noir, fond lumineux sur lequel le trou noir, ou plus exactement son horizon, apparaît comme une sphère noire.
On va aller maintenant à savoir, est-ce qu'il y a des traces de vie dans l'atmosphère de Vénus ?
Oui, alors, lors de la chronique du mois dernier, j'avais évoqué l'annonce faite le 14 septembre par une équipe de chercheurs menée par l'astrophysicienne Jane Greaves de l'Université de Cardiff, ayant annoncé la découverte dans l'atmosphère de Vénus d'un biomarqueur, comme on dit, la phosphine. J'avais insisté sur la controverse que suscitait cette découverte parmi les planétologues, notamment français, qui considéraient d'une part que les indices relevés par des radiotélescopes étaient trop faibles pour être significatifs, et d'autre part que l'origine de la phosphine n'était pas nécessairement biologique, laissant place à la production par d'éventuels mécanismes purement chimiques encore mal connus. Cette polémique a connu deux nouveaux épisodes en octobre. L'astrophysicienne Thérèse Écrenaz, ou Écrenaz, je ne sais pas comment ça se prononce, de l'Observatoire de Paris, a recherché si cette phosphine apparaissait dans des observations archivées réalisées en mars 2015 à l'Observatoire de Hawaï avec un télescope infrarouge de la NASA, mais elle n'en a trouvé aucune trace. Cette vérification tendrait donc à confirmer que l'annonce récente repose peut-être sur des données trop faibles pour être déterminantes. L'autre élément date du 15 octobre, quand la sonde BepiColombo, Colombo, en route vers Mercure depuis octobre 2018, a survolé Vénus à environ 11 000 km d'altitude et a braqué ses instruments pour observer la planète, dont le spectromètre infrarouge MERTIS, qui pourrait confirmer ou non la présence de phosphine dans son atmosphère. L'opération semble avoir réussi, mais il faudra encore plusieurs semaines pour que les données recueillies soient envoyées à la Terre et étudiées. Donc encore un peu de suspense dans ce feuilleton concernant une éventuelle vie dans l'atmosphère de Vénus. À noter qu'il y aura un second survol de Vénus en août 2021 par cette sonde de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en coopération avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise.
Et on a une nouvelle théorie sur l'origine de l'eau sur Terre, Michel ?
Alors c'est une annonce qui date un peu, mais je n'avais pas trouvé la place pour l'aborder lors des dernières chroniques. En effet, c'est le 28 août dernier qui est paru dans la revue Science, une étude de l'équipe de Laurette Piani du Centre de recherche pétrographique et géochimique de l'Université de Lorraine, qui remet en cause le scénario généralement établi pour expliquer la richesse en eau de notre planète. Jusqu'à présent, on pensait que la Terre très jeune, au début de sa formation, était trop chaude pour conserver l'eau présente initialement dans les matériaux qui l'avaient constituée par accrétion, et donc que cette eau avait été apportée ultérieurement de l'extérieur, probablement par des astéroïdes ou plutôt des comètes, dont on sait qu'elles contiennent beaucoup de glace, car elles se sont formées très loin du Soleil, dans une zone très froide du système solaire. Nos auditeurs peuvent s'étonner que toute l'eau de la Terre puisse provenir des minuscules comètes, dont souvent la taille n'est que de quelques kilomètres, même si elles ont bombardé la Terre pendant des millions d'années avec une intensité bien plus forte que dans les périodes géologiques récentes, car au début de sa formation, il y a environ 3,8 milliards d'années, le système solaire était encombré d'un tas de petits corps errants qui ont été progressivement nettoyés, si je peux dire, par les grosses planètes. En fait, il faut comprendre qu'on a une idée assez fausse de la quantité d'eau présente sur la Terre, car on a tous l'image de l'eau de surface, avec ses vastes océans qui donnent cet aspect unique à notre planète bleue, avec environ 3/4 de sa surface couverte d'eau, en réalité dans les 71%, si on va être précis. Mais cette eau de surface n'est en réalité qu'une fine pellicule à l'échelle de la planète. Les fosses marines les plus profondes ne font que dans les 10 km, 10 984 mètres mesurés dans la fosse des Mariannes qui détient le record, ce qui est bien peu comparé aux 6400 km du rayon terrestre. Des scientifiques ont d'ailleurs essayé d'évaluer le volume d'eau que représente l'ensemble des océans à la surface de la Terre, et ils arrivent à un résultat de l'ordre de 1400 millions de kilomètres cubes, qui est un chiffre astronomique difficile à apprécier. Pour le comparer à la Terre dans son ensemble, le plus simple est d'imaginer que l'on regrouperait toute cette eau dans une sphère, une sorte de mini-planète d'eau à 100%, et elle ne ferait que dans les 700 km de rayon, soit environ 10 fois moins que celui de la Terre. En masse, l'eau liquide ne représente que 0,02% de la masse de la Terre, une proportion minuscule par rapport à l'impression que nous donne le visage de notre planète, sa surface majoritairement bleue. On peut donc imaginer que cette petite, si je peux dire, quantité d'eau ait pu être apportée par le bombardement d'astéroïdes et de comètes une fois que notre jeune Terre sèche a été assez refroidie pour conserver de l'eau liquide à sa surface. Mais l'étude de Laurette Piani vient contredire cette théorie bien établie. Je rappelle qu'elle est spécialiste de pétrographie, donc de l'étude des roches, pétra signifiant pierre en grec, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le pétrole, pétrographie, mot qui vient aussi du grec pétra et du latin oleum, le pétroleum étant l'huile de roche. Elle s'est donc intéressée à estimer la masse d'eau que contiennent les roches du manteau terrestre et elle a abouti à un résultat surprenant. Elle serait de 3 à 20 fois plus importante que l'ensemble des eaux de surface. Comme il est très difficile d'étudier les roches terrestres à grande profondeur, nos forages n'atteignant qu'à peine une dizaine de kilomètres au maximum, elle arrive à cette conclusion par l'analyse de météorites, ces roches tombées sur Terre qui sont comme des fossiles représentatifs de la composition du jeune système solaire à l'époque où notre planète se formait. Leur composition est bien plus riche en eau qu'on ne l'avait mesurée jusqu'à présent et lui permet d'estimer que c'est dans les 95% de l'eau de la Terre qui proviendrait de ses constituants initiaux et seulement 5% qui auraient été rapportés ultérieurement par le bombardement de petits corps. Cette nouvelle théorie a fait grand bruit dans la communauté scientifique puisqu'elle modifie radicalement un modèle qu'on croyait bien établi. Mais, comme tout nouveau résultat, elle soulève de nouvelles questions. Et notamment, par quel mécanisme une partie de l'eau contenue dans le manteau terrestre a-t-elle pu migrer vers la surface pour former nos océans ? Une petite précision pour nos auditeurs, quand on parle de l'eau contenue dans les roches ou les météorites, il ne faut pas imaginer de l'eau piégée à l'intérieur de ces matériaux solides. Il s'agit en fait d'eau, ou plus exactement de l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, qui sont combinés chimiquement à l'intérieur de ces minéraux. On ne produira pas d'eau liquide en comprimant un caillou, même sous une très forte pression comme elle peut exister dans le manteau terrestre.
Très bien, c'est très intéressant, Michel. J'apprends plein de choses en même temps que vous lisez.
Bah, c'est un peu fait pour ça.
Merci. Alors, un rendez-vous, maintenant on va parler d'un rendez-vous réussi avec un astéroïde.
Oui, alors je l'ai choisi comme thème de la chronique d'aujourd'hui. Au départ, ça devait être une actualité, mais c'est devenu tellement important en le développant que j'en ai fait un thème complet. Alors, je veux parvenir sur la fake news qui circule sur les réseaux sociaux à propos d'un astéroïde qui frapperait la Terre le 2 novembre prochain en provoquant des catastrophes.
On est rassuré, Michel.
C'est une fausse nouvelle à laquelle j'avais tordu le cou la dernière fois en vérifiant que cet astéroïde immatriculé 2018 VP1 était très petit, environ 2 mètres, ce qui ne lui permettrait pas de faire d'énormes dégâts s'il venait à percuter la Terre. Collision qui ne risque pas de se produire lundi prochain, car il passera à 450 000 km de nous, c'est-à-dire bien plus loin que la Lune. Aujourd'hui, je veux parler d'un autre astéroïde nettement plus gros, dans les 500 mètres, baptisé Bennu, en mai 2013, après qu'il ait été sélectionné comme objectif de la sonde Osiris-Rex de la NASA. Et cette mission a connu un très grand succès la semaine dernière, le 20 octobre, vers minuit à l'heure française, avec un bref contact de l'engin à la surface de l'astéroïde pour en prélever quelques échantillons. Bennu fait partie de la catégorie d'astéroïdes qu'on appelle Apollon, du nom du premier de ce type découvert en 1932, et qui en comprend un peu plus de 12 000. Ils possèdent tous une orbite elliptique autour du Soleil, dont le demi-grand axe est supérieur à celui de la Terre, donc une orbite plus grande que la nôtre, mais un périhélie, c'est-à-dire le point de l'orbite le plus proche du Soleil, qui est plus petit que celui de la Terre. Leur trajectoire peut donc couper l'orbite terrestre en deux points, et ils font donc partie des astéroïdes qu'on appelle géocroiseurs, susceptibles de nous heurter un jour. Pour Bennu, les calculs actuels montrent qu'il aurait une chance assez faible, environ 1 sur 2000, de nous heurter en 2182, ce qui nous laisse encore pas mal de temps pour nous y préparer. Comme la plupart des petits astéroïdes, on ne connaissait pas grand-chose sur lui quand il a été choisi, car ces petits objets restent pratiquement de petits points lumineux mobiles sur la voûte étoilée, même quand on les observe avec de grands télescopes, comme Bennu lors de sa découverte en septembre 1999. C'est l'approche de la sonde qui a permis d'en avoir des images détaillées, révélant d'abord sa forme, une sorte de sphère un peu renflée vers son équateur, puis les détails de sa surface avec de très nombreux rochers, ce qui a d'ailleurs compliqué le contact. Et aussi sa teinte très sombre, car son albédo, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'il réfléchit, n'est que de 0,03, plus noir que le macadam de nos routes qui a un albédo d'environ 0,05. Cette teinte grise très foncée serait due à la présence importante de carbone dans les roches de surface, ce qui rend ce type d'astéroïde particulièrement intéressant à étudier, car on pense que ce sont des objets de ce type qui, en tombant sur la jeune Terre en formation, ont pu lui apporter des molécules carbonées complexes, comme des acides aminés par exemple, briques à partir desquelles la vie aurait pu apparaître.
En tout cas, on s'y connaît plus en astéroïdes qu'en virus, j'ai l'impression, Michel. Alors c'est donc pour cela qu'on y a envoyé une sonde, en fait.
Oui, mais le choix s'est fait plus tard dans l'histoire d'Osiris Rex. D'ailleurs, au passage, ce nom fait référence à une divinité égyptienne et il a été choisi dans le cadre d'un concours international remporté par un enfant de 9 ans de Caroline du Nord aux USA parmi plus de 8000 noms qui avaient été proposés. Cette mission avait été imaginée dès le début des années 2000, puis validée en mai 2011 dans le cadre du projet New Frontiers de la NASA, regroupant les missions assez coûteuses d'exploration du système solaire. L'objectif principal était bien de s'approcher d'un astéroïde géocroiseur et d'en prélever des échantillons, puis les rapporter sur Terre pour les étudier, afin de mieux connaître les premières étapes de formation du système solaire, car ces petits corps ont très peu évolué depuis, contrairement aux grosses planètes, et d'y vérifier la présence de molécules carbonées complexes. Accessoirement, il s'agissait aussi de mesurer l'effet Yarkovsky, du nom de l'ingénieur russe qui l'a théorisé autour de 1900, c'est-à-dire l'influence que le rayonnement solaire peut avoir sur la trajectoire des petits astéroïdes en éclairant plus un côté que l'autre, et incidemment d'évaluer le risque que représenterait leur collision avec la Terre en connaissant mieux leur composition physique et chimique. Parmi les nombreux Apollons possibles, Bennu a été choisi par le comité scientifique de sélection pour plusieurs raisons. Ses caractéristiques physiques connues à l'époque, qui en faisaient un astéroïde ancien ayant peu évolué, et potentiellement riche en composés carbonés, comme le suggérait son albédo très faible, mesuré en 2007 par le télescope spatial Spitzer. Il y avait aussi les caractéristiques de son orbite relativement proche de celle de la Terre, allant de 0,7 fois à 1 fois et demi, à 1 fois 1,4 sur être précis, la distance moyenne Terre-Soleil, ce qui permet de l'atteindre après un trajet relativement court. C'était quand même à 330 millions de kilomètres de nous lors du prélèvement. Et enfin, sa petite taille, estimée à environ 500 mètres, donc une gravité faible, facilitant une manœuvre de toucher furtif de sa surface pour prélever des échantillons. La sonde Osiris-Rex a été lancée le 8 septembre 2016 pour n'atteindre Bennu qu'en octobre 2018, après 2 ans de trajet. Il faut comprendre qu'on n'envoie pas directement une sonde vers un petit corps quand on veut le rejoindre pour se mettre en orbite autour de lui, ce qui a été fait fin décembre 2018, après plusieurs manœuvres. Pour obtenir un tel résultat, il faut que la sonde adopte une trajectoire similaire à celle de l'astéroïde, donc on l'a envoyée sur une grande orbite autour du Soleil, revenant d'ailleurs survoler la Terre le 22 septembre 2017 pour profiter de son attraction afin d'accélérer ce qu'on appelle une fronde gravitationnelle, avant de rattraper Bennu sur son orbite à partir d'août 2018 à une vitesse inférieure à 1 km/h par rapport à lui. En se rapprochant de sa cible, à environ 2 km début 2019, elle nous a fourni des images et des mesures de plus en plus détaillées, permettant de mieux connaître ce petit objet du système solaire.
Donc on en arrive à 2 ans d'observation. Est-ce qu'on a découvert des choses intéressantes ?
Alors bien entendu, et d'abord sa forme, presque sphérique, avec un renflement à l'équateur, sans doute dû à sa rotation plutôt rapide, en 4 heures environ, ce qui lui donne une silhouette presque carrée, donc la fausse illusion d'une forme presque cubique quand on voit ses photos. Curieusement, il a une certaine ressemblance avec un autre astéroïde, Ryugu, visité par une sonde japonaise et dont on reparlera un peu plus tard. À noter aussi que sa densité est plutôt faible, environ 1 tonne 200 le mètre cube, comparable à celle de Ryugu, soit 20% de plus que l'eau, ce qui est très inférieur à celle d'un rocher compact. Ces petits astéroïdes ressemblent plus à un agrégat de petits éléments avec probablement une grande porosité, qu'on estime dans les 40%. Pour donner une image culinaire approximative, ces objets ont plus à voir avec une meringue pleine de petits trous qu'avec un nougat bien compact. Et c'est plutôt rassurant pour nos descendants, car si une collision avec la Terre devait se produire à la fin du 22e siècle, un objet peu compact sera beaucoup plus désagrégé lors de sa traversée de l'atmosphère et les dégâts au sol seront bien moindres qu'avec un astéroïde plus dense. Ensuite, les chercheurs ont été surpris par les images de sa surface. D'une part, on y décèle de très nombreux cratères d'impact. Donc, comme les collisions avec d'autres corps sont d'autant plus nombreuses que l'astéroïde est ancien, on estime que Bennu est plutôt âgé pour un astéroïde géocroiseur destiné à être absorbé plus ou moins vite par la Terre. Il aurait entre 100 millions et 1 milliard d'années. D'autre part, il est couvert de très nombreux rochers plus ou moins gros, ce qui est surprenant, car un si petit objet avec une gravité très faible est incapable de capturer des rochers, sauf s'il le rencontre avec une très faible vitesse d'impact. L'analyse par spectroscopie de sa surface a bien attesté la présence abondante de composés carbonés, ce qui confirme que les astéroïdes de ce genre auraient pu apporter sur la jeune Terre les molécules qui auraient contribué à l'apparition de la vie sur notre planète. Si la détection de ces composants carbonés est sans doute scientifiquement bien plus importante, je signale pour l'anecdote que l'analyse de la surface de Bennu a révélé la présence d'autres minéraux, comme l'or ou le platine, un peu surprenante sur ce type d'astéroïde non métallique. Personnellement, je le regrette un peu, car ça risque malheureusement de confirmer l'intérêt économique de ces objets que des sociétés minières spatiales envisagent d'exploiter quand ce sera techniquement possible. Mais Osiris-Rex a aussi mis en évidence la présence de minéraux hydratés, comme par exemple des carbonates, donc qui se seraient formés en présence d'eau liquide. Bennu étant beaucoup trop petit pour avoir porté de l'eau à sa surface, on estime que ces matériaux hydratés sont des débris qu'il a capturés, mais qui proviendraient d'un autre corps bien plus gros, comme par exemple Vesta, un des plus gros astéroïdes circulant entre Mars et Jupiter, avec ses 550 km de diamètre, ce que semble confirmer la composition chimique de certains des gros rochers visibles à la surface de Bennu.
Alors j'imagine que l'intérêt, c'est d'analyser plus finement ces minéraux, mais pour ça, il faut les rapporter sur Terre, d'où un prélèvement effectué le 20 octobre dernier.
Exactement. Mais il y a plusieurs choses à dire à ce propos. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on rapporte sur Terre des échantillons d'un petit corps du système solaire. Début 2004, la sonde américaine Stardust, ce qui veut dire poussière d'étoiles en français, a rencontré la comète 81P Wild à environ 240 km de distance. Et elle était munie d'un collecteur, une sorte de raquette contenant un aérogel capable de freiner et capturer de petites particules cométaires. Ce collecteur a ensuite été placé dans une petite capsule que la sonde a larguée le 15 janvier 2006 lors d'un survol de la Terre et qui, munie d'un parachute de freinage, a atterri dans une zone désertique de l'Utah aux USA. Depuis lors, ces particules ont été analysées dans des laboratoires spécialisés, notamment 9 situés en France, dont le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, l'ESRF, c'est le synchrotron européen de Grenoble, ou le laboratoire de géologie de l'ENS à Lyon. D'autres tentatives ont été moins réussies. En 2004, la sonde Genesis de la NASA devait rapporter des particules du vent solaire prélevées en 2001. Mais la capsule a été éventrée lors de son atterrissage sur Terre, ce qui complique toute analyse, puisque les éléments qui ont pu être recueillis malgré tout ont été contaminés par l'environnement terrestre. En juin 2010, la sonde japonaise Hayabusa rapportait des échantillons d'un astéroïde prélevé en 2003 avec un dispositif consistant à tirer un petit projectile à faible distance de la surface pour éjecter des débris lors de l'impact. Malheureusement, la CONNECT n'a pas donné le résultat escompté avec une quantité d'échantillons bien plus faible que prévu, environ 1500 grains de quelques microns seulement. Et c'est justement la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui a récidivé avec la sonde Hayabusa 2, lancée en décembre 2014, qui a étudié l'astéroïde Ryugu entre juin 2018 et novembre 2019. Comme je l'ai dit auparavant, Ryugu est un astéroïde assez comparable à Bennu, mais d'une taille supérieure, environ 1 km. À deux reprises, en février puis en avril 2019, donc c'est récent tout ça, la sonde s'est posée en douceur à la surface pour y prélever des échantillons, toujours avec la technique du tir d'un petit projectile pour éjecter des matériaux dans une sorte de cornet afin de les récupérer. Ces opérations ont bien réussi, mais malheureusement, pour le moment, on ne sait rien de la quantité, de la qualité des prélèvements effectués, car ils sont encore en route vers la Terre, la capsule des contenants devant être larguée en décembre prochain pour atterrir dans le désert australien. Et enfin, nous arrivons à la dernière opération de ce type lors de la manœuvre d'Osiris-Rex du 20 octobre dernier. Cette approche de la surface de l'astéroïde a été rendue très compliquée par la présence de très nombreux rochers, dont 200 de plus de 10 mètres, alors que lors de la conception de la mission, la connaissance qu'on avait de l'astéroïde à distance laissait penser qu'il devait être relativement lisse, parsemé de petits cailloux de quelques centimètres seulement. Du coup, le programme de descente pour recueillir des échantillons était totalement obsolète. Il faut savoir que vu la distance très grande à laquelle se déroule l'opération, plus de 300 millions de kilomètres, il est impossible de piloter la sonde à partir de la Terre, car les communications sont beaucoup trop lentes. Une instruction envoyée par radio mettrait plus de 15 minutes pour lui parvenir. Il lui faut donc réaliser la procédure en autonomie, en suivant un programme prédéfini. Celui qui avait été implanté lors de sa conception prévoyait de pouvoir se poser dans une large zone dégagée d'environ 100 mètres, qui n'existe pas à la surface de Bennu. Fin 2019, il a donc fallu que les ingénieurs revoient entièrement la procédure, avec une précision bien plus grande, de l'ordre de 5 à 10 mètres, en utilisant les caméras de la sonde pour éviter les obstacles, puis la reprogrammer et la télécharger dans l'ordinateur de bord. Et tout ça, je rappelle, à des centaines de millions de kilomètres.
Bien sûr.
Par précaution, la manœuvre a été simulée à deux reprises, en avril, où la sonde est descendue jusqu'à 65 mètres de la surface, puis en août à 40 mètres. Et le 20 octobre dernier, ça a été le grand saut jusqu'au contact dans une zone entourée de rochers gros comme des maisons.
Et elle s'est posée à la surface alors ?
Alors pas exactement. Il y a bien eu contact, mais le dispositif de prélèvement était au bout d'un bras articulé long d'un peu plus de 3 mètres. Et c'est uniquement lui qui a touché la surface, pas le corps de la sonde, si je peux dire, une sorte de cube d'environ 3 mètres et d'une masse avoisinant la tonne. La surface de Bennu n'a été heurtée que par un petit cylindre creux d'environ 30 cm et pendant seulement 5 à 6 secondes avant que la sonde s'éloigne poussée par son système de propulsion. On peut facilement trouver sur Internet des vidéos prises par une des caméras d'Osiris Rex. D'ailleurs, j'ai envoyé le lien si on veut le mettre sur des sites web.
Ositis. peut-être.
Osiris. Osiris, ah. Osiris. Il y a une faute de frappe, je pense, sur le texte. Osiris, c'est la divinité égyptienne.
Il y a une faute de frappe, c'est pour
je
ça.
Je crois d'ailleurs, je fais ça de mémoire, donc je ne garantis pas pour nos éditeurs, mais qu'en fait, il est souvent représenté par un ibis, et qu'en fait, il est plus ou moins né dans le feu. Donc, on fait souvent, si j'ai bien compris, l'amalgame avec le fameux phénix, hein, l'oiseau de feu. Alors, le choix, puisqu'on est sur Osiris Rex, le choix que le jeune gamin de 9 ans avait fait de ce nom-là, ça venait simplement de la forme de la sonde, qui était un espèce de cube de 3 mètres avec de grands panneaux solaires, donc il ressemble un petit peu à un oiseau. Voilà, et c'est de là qu'est venue l'idée de ce nom. Donc, j'en reviens au contact d'Osiris Rex avec Bennu. Pendant ce bref contact, de l'azote sous pression a été envoyé dans le cylindre, en contact avec la surface, pour soulever la poussière des petites roches qui ont été collectées par un réservoir situé sur tout le pourtour. L'objectif était d'en recueillir au moins 60 grammes, mais le dispositif pouvait en capturer jusqu'à 2 kg. Un second système passif consistait en une série de 24 pastilles recouvertes d'une sorte de velcro, disposées à la base du cylindre, qui devait recueillir par contact des petits grains directement à la surface, afin de pouvoir étudier comment elle est altérée par son exposition au vide spatial. Les images de la manœuvre semblent confirmer que l'opération a été un succès, puisqu'on y voit nettement les particules éjectées par le gaz volter tout autour du cylindre en contact avec l'astéroïde. Sur d'autres images, prises ultérieurement par la sonde, on peut voir que des particules s'échappent encore du dispositif 2 jours après l'événement, à cause de roches trop grosses qui empêchent une sorte de feuille de Millard de refermer correctement le collecteur. C'est toujours une espèce de malédiction des missions spatiales très sophistiquées qui sont contrariées par des petits détails pratiques imprévus. Du coup, les responsables ont décidé de renoncer à une opération de pesée des échantillons prévue le 24 octobre afin de limiter les pertes et d'avancer leur stockage dans la capsule de retour, ce qui ne devait se faire normalement que le 2 novembre. On ne saura donc vraiment quel est le fruit de cette récolte qu'en septembre 2023, car on a pu le voir sur les exemples que j'ai cité tout à l'heure, le trajet de retour vers la Terre est assez long, plus de 2 ans. Si tout se déroule comme prévu, Osiris Rex devrait profiter d'une fenêtre favorable en mars 2021 pour quitter Bennu et entamer son retour vers nous, arriver vers la Terre à l'automne 2023, larguer la capsule dans l'atmosphère où elle sera freinée en dissipant sa chaleur grâce à un bouclier thermique avant l'ouverture de son parachute à 3 km du sol, où elle devrait se poser en douceur, de nouveau, dans le désert de l'Utah. Il va donc nous falloir encore patienter encore un peu plus de 2 ans, mais si ces échantillons sont suffisants pour être analysés et nous permettent d'en savoir plus sur le rôle que ces astéroïdes ont pu jouer dans l'apparition de la vie sur Terre, et à l'inverse, de mieux estimer la menace qu'ils peuvent représenter pour nous, ça vaudra largement la peine d'attendre jusque-là.
On va être patient alors, Michel. On va attendre ce que vont dire les astéroïdes.
Ce sera pour la chronique 80 quelque chose, si on en parle encore en 2023.
Rendez-vous en 2023 pour analyser ces résultats avec vous, Michel. On termine cette chronique par le ciel du mois.
Voilà, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org. Pour avoir les cartes du ciel correspondantes, c'est difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. En fait, je résume ici un petit peu le texte que je mets en ligne. Je devrais la mettre à jour à la fin de la semaine, je pense, pour le mois de novembre. Depuis le passage à l'heure d'hiver, le week-end dernier, la nuit arrive bien plus tôt. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 18h. La nuit arrive vers 19h, et le ciel bien noir vers 19h30. Fin novembre, avec le raccourcissement des jours en automne, le coucher sera vers 17h20, la nuit vers 18h30 et le ciel noir vers 19h. Quoi qu'on en pense pour l'organisation de notre vie au quotidien, ces horaires ont au moins l'avantage de permettre d'observer le ciel étoilé très tôt, pratiquement à l'heure du dîner. Comme novembre est le mois central de l'automne, c'est le ciel typique de cette saison qui se montre en début nuit, avec la constellation vedette de l'automne, Pégase, bien reconnaissable à son grand carré pratiquement vide d'étoiles, arrivant au sud dès 21h, et si je peux dire, en chassant le ciel de l'été parti se coucher vers l'ouest, même si quelques constellations sont encore visibles, comme les 3 composant le fameux triangle de l'été, le cygne, l'aigle et la lyre. Fin novembre, à la même heure, donc 21h, c'est Pégase qui aura commencé à basculer vers l'ouest, et Orion, typique du ciel de l'hiver, qui commencera à se lever à l'est. Selon la mythologie, Pégase est né du mélange du sang de la méduse avec l'eau de mer, Donc il domine dans le ciel des constellations marines, les poissons, dans laquelle brille Mars, et la baleine située juste à côté du Verseau. Le ciel d'automne étant en grande partie dégagé de la Voie lactée, qui nous masque les objets lointains, c'est une des périodes favorables, avec le printemps, pour observer des galaxies, notamment la plus grosse d'entre elles, car la plus proche, la grande galaxie d'Andromède, située dans cette constellation qui prolonge Pégase vers l'est. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, dans le ciel, comme une petite tache floue ovale. Elle est à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous, et pourtant, elle est très grande dans le ciel. La petite tache que nos yeux peuvent voir n'est que la partie centrale la plus lumineuse, mais s'ils étaient plus sensibles et nous montraient la galaxie dans son entier, comme on peut la révéler sur des photos, elle aurait 6 fois la taille de la pleine Lune. D'ailleurs, avec de simples jumelles, on peut déjà apercevoir une ellipse bien plus grande, et elle est facile à trouver avec une carte du ciel. Comme je l'ai dit, on peut facilement admirer Mars vers l'est en début de nuit, encore bien brillante, même si son éclat diminue progressivement depuis l'opposition de la mi-octobre. On ne peut pas la rater avec sa couleur nettement orangée. Si on observe son mouvement par rapport aux étoiles jour après jour, on constatera qu'il s'effectue d'est en ouest, c'est-à-dire en sens inverse par rapport au mouvement habituel des planètes. C'est ce qu'on appelle une rétrogradation qui se terminera mi-novembre quand la planète rouge reprendra son chemin normal, si je peux dire, au milieu des étoiles. Côté planète, on ne peut pas rater non plus le phare blanc éclatant au sud-ouest en début de nuit, Jupiter, qui domine de son éclat tout le ciel. Dans une simple paire de jumelles, on peut facilement observer ces 4 principaux satellites qui forment comme un alignement de 4 petites étoiles de part et d'autre de la planète et changent de position en quelques dizaines de minutes. À l'est de Jupiter, donc à gauche, un autre point lumineux légèrement jaunâtre, c'est Saturne, dont on peut admirer les anneaux dans un petit télescope, mais pas avec une paire de jumelles qui ne grossissent pas suffisamment. Il faut profiter de cette période favorable pour observer ces deux planètes dans de bonnes conditions en début de nuit, car elles sont déjà assez basses. Fin novembre, elles seront déjà couchées à 21h. Ces deux planètes peuvent mériter qu'on leur consacre des observations répétées ces prochaines semaines, car au fil des jours, Jupiter, qui se déplace vers l'est plus vite que Saturne, car plus proche du Soleil et de nous, va progressivement se rapprocher de sa voisine, jusqu'à la frôler de très près. J'anticipe un peu sur décembre, car c'est le 21 décembre qu'elles seront les plus proches, au point de paraître presque se confondre à l'œil nu. Ce sera une heureuse coïncidence, si proche de Noël, car on pense que c'est peut-être une conjonction de planètes très serrées, prévue par les astronomes et astrologues de l'Antiquité, qui serait à l'origine de la légende de la fameuse étoile de Bethléem. Même si elle se rapproche progressivement du Soleil, la très brillante Vénus sera encore visible le matin pendant le mois prochain, mais de plus en plus tard dans les lueurs de l'aube, à partir de 4h30 environ en ce moment, mais presque à 6h fin novembre, soit seulement 2h avant le lever du Soleil. Comme chaque mois, ces planètes visibles produisent quelques conjonctions avec la Lune, en commençant par demain, jeudi 29, où la très grosse Lune, presque pleine, accompagnera Mars pendant toute la nuit, de très près, environ la largeur de 2 doigts bras tendus. Il faudra ensuite patienter jusqu'au matin du jeudi 12 novembre pour voir le fin croissant surplomber Vénus à son lever, puis le lendemain, vendredi 13, la suivre environ la largeur aussi de 2 doigts bras tendus. Puis en début de nuit, le jeudi 19, un gros croissant de Lune formant un beau triangle assez régulier avec Saturne et Jupiter. Et voilà pour les éphémérides de novembre, avant d'évoquer le mois prochain, sans doute le solstice d'hiver du 21 décembre, précédant de peu et sans surprise la fête de Noël, qui lui a été accolée au 4e siècle pour se substituer aux fêtes païennes qui saluaient auparavant cette sorte de renaissance annuelle du soleil. Notre prochaine chronique devrait en principe être le mercredi 25 novembre, pile un mois avant cette fête, mais on peut malheureusement craindre que ce rendez-vous ne soit contrarié par le contexte sanitaire de cet automne.
Je ne suis pas sûr, hein, Michel, on peut vous retrouver peut-être pas dans nos locaux, on ne sait pas encore. Mais
voilà,
en
on la fera peut-être à distance.
On la fera voilà, à distance, comme on a pu faire d'ailleurs pendant le confinement, il me semble.
Plus ou moins.
Une fois, oui.
Ouais. On a resté quand même 3 mois ou 4 mois sans faire de chronique.
Mais maintenant, on est réglé, Michel.
Voilà.
C'est différent.
On apprend à vivre avec le Covid.
En tout cas, la Terre, elle ne s'arrête pas de tourner. Il y aura plein de choses qui vont se passer et plein de choses encore à annoncer. Merci encore pour la chronique numéro 68. On retrouvera bien sûr la 69, quoi qu'il se passe, donc le 25 novembre prochain.